Radio Stabile.
Morning Edition from NPR News.
Radio Stabile. Radio Stabile.
Radio Stabile.
Lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et au sommaire d'un jour dans le monde jusqu'à 19h, la Mauritanie, ce sera notre escale reportage. Le pays ayant éloigné la menace terroriste tente d'attirer à nouveau les étrangers. Exemple dans la localité de Walata où s'est rendu Claude Guibal. Sous les radars de l'actualité, bien sûr, Amélie Perrier. Et puis le monde à l'envers avec Isabelle Labéry. Changement au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'entrée en piste de grandes puissances. Mais tout de suite, l'investiture du nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro.
Pierre Veille, un jour dans le monde.
Au Brésil, c'est l'heure de vérité pour Jair Bolsonaro, 63 ans, le président élu de l'extrême droite. Il commence aujourd'hui un mandat de 4 ans après une nette victoire, le 28 octobre dernier, 55% des suffrages, grâce à un discours sécuritaire et malgré tous ces dérapages racistes, misogynes et homophobes. Ex-capitaine de l'armée, il va diriger la première puissance de l'Amérique latine, pays continent de 208 millions d'habitants, le plus grand pays catholique du monde, mais aussi un des pays les plus inégalitaires et les plus violents de la planète. Mochirio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil, maître de conférence à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous avez publié en 2016 « La politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980 » aux éditions Presse universitaire de Rennes. Mochirio, le Brésil, selon vous, bascule aujourd'hui dans quel type de régime ?
C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas encore exactement quel est le pouvoir qui vient d'arriver à la tête du pays, puisque c'est un pouvoir multiforme, à la fois un pouvoir militarisé, un pouvoir ultra-conservateur religieux, très peu sécularisé, un pouvoir de rejet de la classe politique qui pourtant a intégré des grandes figures de la classe politique particulièrement corrompues. Donc c'est une espèce de polyarchie avec différents éléments dont qui ont une difficulté à cohabiter déjà depuis le scrutin d'octobre, dont on ne sait pas exactement s'il va y avoir l'ascendant, par exemple, du camp militaire ou alors du camp politique, mais qui est déjà en conflit interne, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement comment ce nouveau pouvoir va s'insérer ou va complètement rejeter le système politique existant.
Bolsonaro, c'est un nostalgique de la dictature des militaires de 1964 à 1985. Est-ce qu'il y a un risque du rétablissement d'une dictature au Brésil ?
Alors d'une dictature, c'est un peu compliqué parce que les dictatures arrivent rarement par la voie des urnes ou en tout cas de cette manière-là en Amérique latine. Mais un régime qui prendrait des distances très nettes à l'égard de la démocratie libérale, c'est assez prévisible. En particulier, la démocratie libérale telle qu'elle a été établie au Brésil en 1988, sur les ruines donc de la dictature militaire, puisque une grande partie du camp de Bolsonaro, la plus mobilisée idéologiquement sur l'hostilité à l'idée de droits de l'homme, de droits des communautés, de droits des femmes, de droits à la justice d'une partie de la population, contredit complètement la lettre de la Constitution de 1988. Donc il va y avoir une contradiction entre ce qui est le projet de gouvernement de Jair Bolsonaro et le texte de la Constitution. Et c'est donc difficilement résoluble par simplement le respect des institutions établies.
Mochirio, est-ce qu'il y aura des contre-pouvoirs qui pourraient freiner Bolsonaro ? Parce que par exemple, il n'a pas de majorité au Congrès. Son parti, je crois le Parti Social-Libéral, il n'a que 52 députés sur 513.
Oui, en particulier parce que le Brésil connaît un système qui s'appelle le présidentialisme de coalition, qui a pour coutume que le président ne dispose que d'une toute petite majorité, une petite partie du Congrès, et a besoin de faire de larges alliances pour pouvoir gouverner. Et les larges alliances impliquent de négocier avec une classe politique contre laquelle Bolsonaro s'est affirmé, même s'il en fait partie. Mais il a construit sur son image comme l'image de quelqu'un d'extérieur à cette classe politique. Or, il va avoir à négocier avec une droite qui est une droite extrêmement corrompue. Son premier ministre, entre guillemets, qui s'appelle Onyx Lorenzoni, est un cacique de la politique très à droite brésilienne, impliqué dans une dizaine d'affaires, qui a avoué avoir lui-même pratiqué des questions noire, des malversations, mais qu'il a intégré dans son gouvernement parce qu'il ne peut pas gouverner complètement, ou en tout cas ne prévoit pas immédiatement de gouverner complètement contre le Congrès, ou sans le Congrès. Mais les militaires, très nombreux dans son gouvernement, ne sont pas du tout disposés à travailler sous la tutelle de ce personnage et plus généralement de la classe politique. Ils sont plus nombreux que dans certains gouvernements de la dictature militaire, les généraux. Donc il va y avoir des conflits dont il est difficile d'imaginer que ce sont les très faibles d'un point de vue de légitimité, c'est-à-dire la classe politique traditionnelle, qui va les remporter. Et donc il est assez à craindre que ce gouvernement continue de se militariser. Bolsonaro est un capitaine de la réserve, c'est pas quelqu'un de très gradé. Son vice-président est un général de 4 étoiles au maximum de sa carrière. Et il y a à craindre ou à prévoir simplement que les militaires tentent de prendre l'ascendant sur le gouvernement extrêmement cosmopolite de ce président.
Est-ce que vous estimez que Bolsonaro a les épaules, la carrure, l'expérience pour gérer toutes ces difficultés, toutes ces influences qui vont s'affronter au sein de son pouvoir ?
C'est difficilement évaluable. C'est pas quelqu'un d'extrêmement expérimenté, en fait, malgré 30 ans de carrière. Il a été tellement périphérique, en fait, dans sa carrière de député qu'il n'a pas l'expérience de la négociation du point de vue de l'exécutif. Et surtout, il s'est entouré de figures très, très fortes. Des militaires, mais aussi un super ministre de l'économie, mais aussi le fameux juge Sergio Moro, qui sont des figures plus fortes que lui, plus ancrées que lui dans des réseaux de pouvoir, soit des réseaux économiques, oui, soit des réseaux judiciaires, soit dans l'opinion. Et donc, c'est assez difficile de savoir comment une personnalité finalement plus obscure que ces personnages va réussir à les équilibrer.
Mochirio, vous restez avec nous. On va retrouver en direct à Brasilia sur l'esplanade des ministères où sont concentrés tous les pouvoirs. Notre envoyé spécial, donc Olivier Poujade, grâce aux moyens techniques de Gilles Gallinaro. Bonsoir Olivier. Donc en ce moment, c'est la cérémonie d'investiture de Jair Bolsonaro. Où en est-on ?
Jair Bolsonaro est en train de parler, de prononcer ses premiers mots face aux parlementaires brésiliens. Un moment solennel pour ce président d'extrême droite. Il vient de prêter serment, de respecter, de défendre la Constitution après avoir écouté la main sur le cœur religieusement l'hymne national interprété par la marine nationale. Serment prêté aussi en compagnie de son vice-président, l'ancien militaire Antonio Mouran. Ses premiers mots qu'il est en train de prononcer seront déterminants pour les relations des membres du Congrès avec ce nouveau président d'extrême droite. Bolsonaro s'est fait élire grâce à un discours autoritaire, populiste, de rejet de la vieille politique, de la corruption endémique, de rejet surtout du Parti des Travailleurs, de l'ancien président Lula, parti qu'il est parvenu à diaboliser, à rendre responsable de tous les maux du pays. Mais il faut mentionner que seulement 20% de ses électeurs partagent ses idées autoritaires et ultra-conservatrices. Le reste de ses soutiens est finalement assez volatile. C'est ce que nous a expliqué Léo Barreto, un professeur de sciences politiques à l'Université de Brasilia.
Il va être confronté à certains problèmes pour gouverner. Il ne va pas pouvoir appliquer son programme ultra-conservateur parce qu'une grande partie de ses électeurs ne sont pas de droite. Ensuite, il a été élu sur une promesse d'imposer une nouvelle relation avec le Congrès, d'en finir avec le clientélisme, et il sera limité dans sa relation avec ce Congrès. Ensuite, son parti n'a aucune expérience et lui-même a très peu d'expérience. Même s'il est parlementaire depuis 30 ans, il n'a jamais vraiment été actif comme législateur.
Mais c'est précisément ce manque d'expérience qui fait penser à ses partisans, dont plusieurs milliers sont réunis ici sur la place des trois pouvoirs depuis le début de la journée. C'est précisément ce manque d'expérience que Bolsonaro, qui plaît aux partisans de Bolsonaro, un Brésil qu'ils veulent conservateur, libéral, qu'ils veulent libérer de l'emprise du PT, du péril communiste, dont ils sont convaincus qu'il allait précipiter le pays dans le modèle vénézuélien. Hugo fait partie de ces partisans de Jair Bolsonaro, il se réjouit de ce retour aux valeurs patriotiques.
Je ne sais pas s'il va tout changer, mais si les gens comprennent qu'ils doivent travailler pour le Brésil et pas pour un parti politique, travailler pour le drapeau et pas le drapeau d'un parti, ça va changer beaucoup de choses. On ne se servait plus du drapeau que pour les Coupes du Monde. T'imagines ?
Le vert et le jaune du drapeau brésilien, couleur prédominante aujourd'hui devant le palais présidentiel. Un retour à l'ordre aux valeurs traditionnelles. C'est ce que réclament les fans ici et c'est ce que leur a promis le nouveau président.
Olivier Poujade, Jair Bolsonaro va devenir le président d'un pays quand même très divisé.
Oui, hein, c'est assez clair ici dans la mesure où Jair Bolsonaro s'est appuyé sur des discours clivants, racistes, homophobes. Les minorités doivent s'incliner, sinon elles disparaîtront. Voilà par exemple le genre de sortie dont est capable Bolsonaro, des phrases qui effraient et irritent Olavo, leader d'une communauté indigène que nous avons rencontré près de Brasilia.
Cette façon de voir les choses comme un prédateur.
De forma predatoria. Agora se pergunta como é que vai ser?
Maintenant, si tu me demandes ce que ça va donner, j'espère juste qu'il n'y aura pas de violence contre les populations indigènes, les paysans, les peuples traditionnels. Juste après son élection, il y a eu une vraie flambée de violence, de nouveau, qu'on avait réussi à faire disparaître, petit à petit.
C'est pour cette raison que le nouveau président devra sans doute se montrer plus pragmatique, plus consensuel, pour calmer notamment ses partisans les plus radicaux et violents, car son rôle désormais en tant que chef de l'État sera de garantir la stabilité du pays s'il veut relever les défis qu'il s'est fixés, relancer l'économie, combattre la corruption et surtout la violence qui fait 63 000 morts ici chaque année.
Olivier Poujade avec Gilles Gallinaro à Brasilia, c'est la cérémonie d'investiture de Jair Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. Merci à tous les deux. Mochirio est toujours avec nous, historienne spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Qu'est-ce qui va changer là très vite au Brésil avec cette présidence Bolsonaro, par exemple dans le secteur de l'économie?
Alors le super ministre qui est à la fois ministre de la planification, des finances, de l'économie, une partie du travail, qui s'appelle Paulo Guedes, qui est un Chicago boy, qui a enseigné au Chili pendant la période de Pinochet, a prévu de privatiser l'intégralité du patrimoine public brésilien, donc des 144 grandes entreprises publiques, grandes et moyennes entreprises publiques. Donc c'est une privatisation, pas simplement une vague de privatisation, une privatisation intégrale de l'économie, qui est appuyée par une partie des milieux d'affaires, mais pas la totalité, et qui risque d'heurter une partie des nationalistes militaires. C'est ce qui est prévu, mais ça va être la première étape de l'application compliquée, je suis tout à fait d'accord avec votre correspondant, du programme de Bolsonaro, puisque dans son propre camp, il y a des oppositions à cet aspect. Et c'est également pas du tout un aspect central dans l'opinion qui a appuyé Bolsonaro. Les électeurs de Bolsonaro ont majoritairement porté sa candidature pour lutter contre la corruption et la violence, pas pour libéraliser l'intégralité de l'économie. Parfois même au contraire, s'imaginant que puisqu'il est un ancien militaire, il va être étatiste, étatisant et renforcer les services publics. Comment est-ce que l'opinion et le mouvement social va réagir à ce type de privatisation? C'est un mystère et surtout... comment ce gouvernement va réagir à des grèves, à des manifestations, à des oppositions plus ou moins massives, plus ou moins violentes, à mes yeux, pas probablement d'une manière la plus démocratique et la plus modérée possible. Mais il y a beaucoup de champs qui sont ouverts. Le champ de l'éducation, le champ de la sécurité publique.
Alors justement, j'y venais, les questions de société évoquées par Bolsonaro durant sa campagne électorale. Il veut libérer, je le cite, l'enseignement des déchets marxistes. Voilà des termes de campagne. Et puis il y a cette lutte contre la corruption qui est profondément enracinée dans ce pays, le Brésil. Est-ce qu'il peut réussir et de quelle façon?
Ça n'a pas grand sens de penser que Jair Bolsonaro va lutter contre la corruption. Il a lui-même indiqué assez rapidement après son élection que la lutte contre la corruption finalement était mineure par rapport à la lutte idéologique. Lui et Sergio Moro ont déjà affirmé à plusieurs reprises depuis octobre que l'important c'était de débarrasser le pays de la corruption du Parti des Travailleurs. Jair Bolsonaro est impliqué dans un massif scandale de corruption qui a été révélé il y a un mois, selon lequel les attachés parlementaires de plusieurs de ses fils auraient reversé plusieurs centaines de milliers de reais au chauffeur de sa femme au profit de la famille. Cette affaire va être étouffée, comme toutes les affaires qui touchent son chef de cabinet. C'est déjà établi et assumé par le juge qui est désormais le ministre de la Justice. Donc il ne va pas y avoir de lutte massive contre la corruption au Brésil et même les efforts qui ont été menés par la justice depuis plusieurs années vont probablement mourir pendant ce mandat parce qu'ils vont être réduits à l'utilisation de ces arguments et de cette lutte contre la corruption pour exterminer un camp politique, c'est-à-dire une gauche très très large, hein, puisque elle va jusqu'à loin ce qu'on pourrait considérer nous la droite et qui n'est pas considérée comme une authentique un authentique camp conservateur par le camp nouvellement au pouvoir.
Mais alors les Brésiliens vont être, si je vous écoute, les Brésiliens vont être extrêmement déçus. Vous avez suivi la campagne électorale, vous avez entendu les témoignages des Brésiliens qui disaient on en a assez cette classe politique qui est corrompue, on en a assez de l'insécurité qui est absolument effrayante dans ce pays. Et si je vous écoute, finalement ça va être pareil, il n'y aura pas de grand changement.
Alors non, ça ne va pas être pareil. Le projet, par exemple, de donner un port d'armes définitif à tous les bons citoyens, hein, qui vont pouvoir se défendre eux-mêmes et être très libres de l'utilisation de leurs armes, va modifier la situation de la sécurité publique. Va pas la modifier en limitant la mortalité, mais va modifier radicalement la situation de la sécurité publique. Et par ailleurs, les choses vont changer, y compris les choses vont changer parce que il va y avoir une modification complète de la scène politique par la réduction forte du pluralisme orientée vers la la démonisation d'un camp politique, pas simplement le Parti des Travailleurs, mais également les mouvements sociaux, les syndicats, etc. Et on a plein d'expériences historiques dans lesquelles des gouvernements qui ont beaucoup de problèmes d'application de leur politique tiennent parce qu'il y a un bouc émissaire et qu'il y a un bouc émissaire qui est tellement considéré comme le responsable éternel de tout ce qui va mal que l'opinion se construit, en tout cas une partie de l'opinion, un appui au pouvoir en place autour de la lutte perpétuelle contre cet ennemi-là. C'est l'objectif en tout cas d'un bon tiers du gouvernement, ceux qui sont considérés comme les disciples d'Olavo de Carvalho, c'est-à-dire le gourou, hein, le penseur de l'idéologie de Bolsonaro, qui est un philosophe autoproclamé qui vit aux États-Unis, qui a nommé un tiers du gouvernement à peu près, et qui considère que le projet de Bolsonaro, c'est une guerre contre la gauche. Il n'y a pas d'autre projet. Il n'y a pas de guerre contre la corruption, il n'y a pas de guerre contre la violence. C'est une guerre contre le marxisme culturel qui a porté tout un tas d'idéologie d'émancipation depuis 30-40 ans, qui a porté la pensée écologiste, qui sont considérés comme absolument rejetés par ce camp. Et ça, c'est un objectif et ça peut suffire à souder une opinion.
Mais ce marxisme culturel, il existe vraiment au Brésil ou c'est un fantasme de Bolsonaro?
Il existe absolument à la même manière qu'en Europe, puisque l'Europe est le foyer du marxisme culturel. Vous considérez que vous vivez dans un pays communiste, parce que les bolsonaristes considèrent que vous vivez dans un pays communiste et que nous vivons dans un pays communiste. Bien sûr que non. Le communisme est un fantasme éternel, très ancré dans la pensée militaire brésilienne. Ce camp-là considère que l'Europe est dégénérée par le progressisme depuis 40 ans, qui a accéléré en 1968, et que les mouvements de populisme d'extrême droite tentent enfin de réagir contre cette dégénérescence, et que le trumpisme et le bolsonarisme sont en train de prendre le relais dans les Amériques. Donc non, il n'existe évidemment pas de mouvement marxiste ni de mouvement communiste. Il existe une pensée progressiste et des émancipations depuis 50 ans, dont Bolsonaro est l'un des éléments du grand basculement dans l'autre sens vers une réaction très forte qui a une dimension idéologique puissante.
Et si on parle de diplomatie, alors on surnomme souvent Bolsonaro le Trump tropical. Quels sont les liens, les ressemblances entre Trump et Bolsonaro? Trump n'est pas venu à Brasilia pour l'investiture de Bolsonaro. Il a envoyé son secrétaire d'État, Mike Pompeo.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un alignement, la prévision d'un alignement diplomatique absolu de l'équipe de Bolsonaro sur le Trump, hein, sur ce qui est assez inédit au Brésil, parce que le Brésil a une longue tradition de multilatéralisme, dont on imagine qu'elle date des années du PT, mais qui est beaucoup plus ancienne que ça. Par exemple, la dictature militaire brésilienne a été beaucoup moins alignée sur les États-Unis que d'autres dictatures du Cône Sud. Donc, il y a une tradition de multilatéralisme au Brésil qui semble être abandonnée par le nouveau pouvoir. Donc, il y a un alignement diplomatique premièrement. Après, pour les ressemblants, il y a un cousinage évident entre ces figures qui sont des figures qui se construisent sur à la fois une pensée ultra-conservatrice et un rejet du politique. Un rejet de ce que c'est que le politique, les médias, les journalistes, les élites, les personnalités centrales. Votre correspondant vous racontera peut-être que la situation pour les journalistes aujourd'hui pour l'investiture est très compliquée. Ils sont extrêmement limités dans leur mouvement et dans leur liberté. Donc il y a ce cousinage, mais Bolsonaro est beaucoup plus convaincu de l'inutilité de la démocratie libérale que Trump, à mon avis, et beaucoup moins encadré par une vieille démocratie que celle c'est le cas aux États-Unis, et donc le risque pour le système démocratique brésilien est beaucoup plus important.
Et sur l'environnement, Mochirio, il veut en finir, je le cite encore, avec l'activisme écologiste chiite. Alors c'est une claire allusion à une forme de radicalisme. Avec lui, la déforestation au Brésil va augmenter de façon dangereuse.
Alors malheureusement, la situation de l'Amazonie rencontre des intérêts contradictoires différents, mais convergents vers la déforestation, puisque à la fois les lobbies du bois, les lobbies du bœuf ont intérêt à accroître la déforestation dans le cadre d'une réduction des réserves et d'une réduction des espaces protégés. Et par ailleurs, le camp ultra-conservateur est convaincu que l'écologie n'existe pas, que l'écologie est une invention marxiste, et donc qu'il n'y a pas du tout de nécessité de maintenir le poumon vert de la planète pour limiter les effets dramatiques à l'échelle globale que pourrait avoir comme conséquence la déforestation amazonienne. Donc il y a plusieurs camps autour de Bolsonaro qui convergent vers un désintérêt autour de la question écologiste. C'est pas l'intégralité des camps, et il y a des contre-pouvoirs importants, hein. Les ONG au Brésil sont puissantes, une partie des intellectuels, y compris conservateurs, vont résister à cette situation, mais l'accélération de la déforestation qu'on observe déjà depuis 2 ans va de manière évidente augmenter. La question est de savoir si en 4 ans, l'Amazonie va réussir à véritablement survivre, puisque au bout d'un certain degré de déforestation, l'Amazonie produit sa propre pluie, et si on la coupe trop, elle ne produira pas la pluie pour survivre d'elle-même. Et donc, il y a une vraie question sur cet élément-là. Est-ce que l'Amazonie va survivre à cette déforestation importante?
Le début du mandat au Brésil de Jair Bolsonaro, c'est aujourd'hui. Merci, Mochirio, historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil, de nous avoir informé sur la situation de ce pays continent immense. Et bien sûr, on reviendra sur cette investiture du nouveau président brésilien dans le journal de 19h.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Un jour dans le monde à suivre jusqu'à 19h sous les radars de l'actualité. Amélie Perrier et puis escale reportage Claude Guibal en Mauritanie dans une localité Walata qui voudrait à nouveau attirer les touristes. Et puis le monde à l'envers vers 18h55. Isabelle Labéry. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Pierre.
Changement au Conseil de sécurité de l'ONU.
Oh oui, 5 nouveaux pays entrent aujourd'hui dans ce Conseil avec quelques ambitions de réforme qui risquent fort d'être déçues.
À tout à l'heure, Isabelle Labéry. Il est kényan, J.S. Ondara, auteur, compositeur, chanteur. Il y a 6 ans, il déménage, il quitte le Kenya, il va à Minneapolis, aux États-Unis. Il chante dans des clubs, une radio le remarque, diffuse ses chansons. Son premier album, Tales of America, sortira en février prochain. En voici un extrait, c'est American Dream, une voix, une guitare basse et un violon qui dialogue.
He was just an American dream. Just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. Ghost from the river is watching. She won't let you get any close. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, cue to shoot out the head over there. Now take this fortune in, baby. Anymore won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah.
J.S. Andara, le rêve américain, American Dream. Il sera en concert à Paris le 24 janvier au Point Éphémère.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie au Pérou, des chamans voient déjà clair dans l'année qui débute.
Oui, coiffés de plumes, habillés de ponchos colorés, un serpent autour du cou et munis de posters des grands dirigeants de la planète, Donald Trump, Vladimir Poutine, Kim Jong-un. Des chamans se sont retrouvés sur une plage de Lima pour leur réunion annuelle et pour accomplir les rituels ancestraux hérités de l'époque Inca. Alors ce chaman raconte qu'ils ont eu des prémonitions toute la nuit. Nous avons eu une vision du problème entre la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis, qui sont les forces en conflit. Ça va se calmer en 2019, assure-t-il. Nous avons vu des discussions, mais des discussions dans la paix. Alors au Pérou, il est très courant de recourir aux visions des chamans et autres sorcières pour voir l'avenir. Avec des yeux aussi optimistes, ça ne peut pas faire de mal.
Optimiste et peut-être réaliste à en croire les vœux du président nord-coréen hier soir.
Oui, alors Kim Jong-un, dans son bureau, assis sur un fauteuil Chesterfield, son discours sur des feuilles à la main.
Ma détermination, dit-il, celle du parti et du gouvernement pour une dénucléarisation totale reste inchangée.
Nous avons annoncé que nous ne fabriquerons plus d'armes nucléaires, qu'on ne les utilisera pas et qu'on ne les dispersera pas. Je suis prêt également, dit-il, à m'asseoir aux côtés du président américain à tout moment pour parvenir à un résultat de la communauté internationale pourra applaudir.
Toutefois,
dit-il, si les États-Unis se méprennent sur notre patience, qu'ils maintiennent la pression et les sanctions contre nous sans tenir la promesse faite devant les yeux du monde entier, nous n'aurons pas d'autre option que d'étudier un autre chemin pour protéger notre souveraineté et parvenir à la paix dans la péninsule coréenne. Voilà pour un discours où cela commence par un message d'apaisement et ça se finit par un avertissement. Alors 2019 devrait beaucoup ressembler sur ce plan à 2018.
Oui, absolument. Amélie Perrier, si on faisait une pause avec l'alcool?
Ah, pourquoi pas? En tout cas, pas de souci pour beaucoup d'entre nous. Après les fêtes, ça ne peut que nous faire du bien. Mais au Qatar, que vous le vouliez ou non, de toute façon, il va désormais vous coûter très cher de boire une bière ou un verre de vin. À partir d'aujourd'hui, le pays impose une taxe de 100% sur l'alcool. Les prix doublent. La liste est partagée largement sur les réseaux sociaux. La bouteille de gin passe à près de 95 €. La bouteille de vin rouge sud-africain à 23 €. Le pack de 24 bouteilles de bière Heineken à plus de 105 €. Il faut savoir que dans ce petit émirat très conservateur, l'achat d'alcool est bien légal, mais soumis à un permis spécial. C'est seulement dans les bars, les clubs, les hôtels avec une licence. C'est interdit dans l'espace public. Et cette taxe supplémentaire inquiète certains.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Eh bien oui, parce que le Qatar a été désigné pays hôte du mondial de foot en 2022. Les organisateurs ont promis qu'il y aurait des espaces prévus pour les amateurs de bière devant les matchs. Mais cette taxe de 100% va peut-être convaincre certains supporters de passer au thé à la menthe, ou peut-être à l'eau gazeuse, on ne sait pas.
Oui, c'est pas pareil. Amélie, l'année qui vient s'annonce en tout cas très chargée au-dessus de nos têtes.
Et c'est CNN qui nous dresse un calendrier des grands événements astronomiques à venir, avec dès dimanche, le 6 janvier, une éclipse du soleil partielle. La Lune va passer entre la Terre et le Soleil. Bon, ça ne sera visible que dans le nord-est de l'Asie et le Pacifique Nord. Les États-Unis auront leur revanche le 21 janvier avec une éclipse lunaire totale. La NASA annonce un spectacle parmi les plus éblouissants au moment où la Lune sera au plus près de la Terre. Elle apparaîtra plus grosse, plus brillante. C'est une super Lune. Mais surtout, ce sera une lune rouge grâce à l'alignement du soleil, de la Terre et de la Lune et au passage de la lumière du soleil dans l'atmosphère terrestre. En tout, CNN recense dans l'année à venir 3 superlunes, une lune bleue, de nombreuses plumes météorites, Jupiter au plus près. Alors, il n'y a rien de politique, c'est juste la tête dans les étoiles.
Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier, à demain Amélie.
À demain.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et voici l'escale reportage en Mauritanie. Après 2 décennies marquées par le terrorisme, le pays commence à se rouvrir doucement aux étrangers. La Mauritanie n'a plus connu d'attentats depuis 9 ans. Mais tout à l'est, le Mali encore est encore instable et continue d'être une menace. L'armée mauritanienne contrôle cette zone, toujours formellement déconseillée aux visiteurs. Claude Dibal, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous vous êtes rendu dans cette zone rouge. Là-bas se trouve Walata, une des plus extraordinaires ville du Sahara, jumelle de Tombouctou, une destination mythique qui tente de renaître de ses cendres.
Sur les façades ocre, les murs de sable, des formes géométriques blanches, intemporelles. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière malienne. Nouakchott est loin, 40 heures de route, bien souvent de la piste truffée de petites boules de cram-cram dont les épines redoutables s'accrochent partout. Un paysage de sable avec parfois des petites touches d'herbe verte. Après des années de terrible sécheresse qui a ravagé les troupeaux, la pluie, à par endroits, fait refleurir le désert et remplit les puits. Mais aux portes de la ville, ce jour-là, c'est une vague de couleurs qui se presse. Des hommes par centaines, au visage masqué dans leur haouli bleu. Des femmes, au boubou éclatant, les mains couvertes de henné.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, votre présence.
Bonjour. Walata accueille pour la première fois le Festival des villes anciennes, une manifestation créée en 2011 pour tenter de sauver les villes mythiques de Mauritanie. Shingeti et ses manuscrits, Ouadan la fortifiée, Tchichit, désertée par les touristes, effrayée par les attentats, enclavée, plombée par le sous-développement. Ici, les sources de revenus sont rares. Après l'assassinat de 3 Français en 2007, le Paris-Dakar a abandonné le Sahel pour l'Amérique du Sud. À Walata, comme dans les autres régions désertiques du pays, on vit essentiellement du pastoralisme. Mais les années de terrorisme et le développement des activités des trafics illégaux ont fait reculer l'élevage en compliquant l'accès aux ressources et aux marchés. Les troupeaux se raréfient, menaçant l'équilibre alimentaire de la région. Ici, il n'y a pas d'industrie, pas d'infrastructure. Dans la foule, un homme, il s'appelle Mohamed Adnan Berouk, c'est le président du Festival des villes anciennes.
Le festival a permis de créer une économie locale durable. Par exemple, des fours. Il a permis d'améliorer les conditions dans le domaine électrique. À l'époque, on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui pourrait installer un téléviseur à Walata. On ne pouvait pas imaginer qu'on ait à Walata des congélateurs. Ceci n'existait pas. Des projets sont nés dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation. Et aussi une manière de préserver notre patrimoine culturel, notre musique, nos arts populaires, notre théâtre, qui renaissent à travers le festival.
Il y a 4 ans, Walata s'était déjà réveillé quelques jours, le temps du tournage de Timbuktu, le film d'Abderrahman Sissako, couronné par le César du meilleur film, Tombouctou. Elle est à 500 km d'ici, de l'autre côté des dunes.
Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là ?
Rien.
Amenez-la.
Ici toujours, tout le monde se plaît à penser que la ville malienne n'est que la petite sœur de Walata, fondée au 7e siècle, une vieille rivalité de villes caravanières. Et ici encore, secrètement, On espère que c'est d'abord à Walata que les touristes seront les premiers à revenir.
Nous sommes dans l'extrême sud-est, dans une zone, je parle de la zone sahélo-saharienne, qui est une zone, on va dire, entre limites à risque.
Mohamed Marmouné, président de l'Office de tourisme mauritanien.
Il y a 10 ans, c'était une ville quasiment abandonnée parce qu'il y a eu en fait ce développement catastrophique du terrorisme dans la sous-région. La Mauritanie, il y a 10 ans, était un pays aux frontières extrêmement poreuses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais cela a un coût. Si nous n'avions qu'un euro, on le mettrait dans la sécurité.
Un peu plus loin sur la place, un attroupement s'est formé autour d'un musicien. Devant lui, les yeux à demi fermés, l'écrivain Mbarek Oulberouk sourit. Pour lui, faire revivre les villes anciennes, c'est aussi une arme contre la radicalisation.
Je crois que les cultures populaires jouent un rôle essentiel dans l'éducation de tous les jours, parce que ce sont des cultures qui portent une culture de tolérance très profonde et qui vient de très loin. Les djihadistes et l'extrémisme sont des discours complètement importés. C'est des discours qui n'ont pas d'assises traditionnelles, qui n'ont pas d'assises dans notre culture locale. Vous savez, Walata, c'est une ville charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, entre le désert et le Sahel, entre tout. C'est une ville essentielle pour connaître la culture de la région et la culture de la région au sens large du terme.
L'an dernier, le Quai d'Orsay a allégé ses recommandations vers le nord de la Mauritanie, le désert de l'Adrar, le Tagan. Plus de 1500 touristes sont déjà revenus et à Walata, chacun sait que les charters ont repris vers la ville d'Atar. Mais Walata, sortie de son sommeil par une semaine de fête, reste, elle, en zone rouge, comme une belle endormie au milieu des sables.
Voilà, escale reportage de Claude Guibal à Walata, en Mauritanie. Reportage mixé par Lauriane Toulmont. Il est 18h52, un saut dans le passé, 1952. Ah, Marilyn Monroe, Bye Bye Baby, elle chante avec Jane Russell. C'était bien sûr le film, la comédie musicale, Les hommes préfèrent les blondes.
Bye Bye Baby, remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. And by with my baby by and by.
By and by,
bye baby, bye bye.
We will meet
baby
on
bye.
The beautiful shore.
Bye.
Bye bye, pretty baby. You better remember you're my baby. When they give you the eye, my, my.
Although I know that you care, won't you ride and declare?
Declare that though on the loose, you are still staying on the square.
I'll be gloomy,
but send that rainbow to me.
Then my shadows will fly.
Though you'll be gone for a while,
Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby. When they
give you the eye.
Quelle présence, Marilyn Monroe, les années 50, l'Amérique paisible d'Eisenhower, un jour dans le monde.
Le 18-20, Pierre Veille, sur France Inter.
Le monde à l'envers avec vous Isabelle Labéry. 5 nouveaux pays entrent aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membres non permanents, mais avec quelques ambitions de réforme. Ça ne changera pas la face du monde et surtout pas celle de l'ONU, parce que on dit en 2019, ce grand machin, le grand machin, c'est l'expression célèbre de De Gaulle, ce grand machin ne devrait pas mieux réussir que par le passé à régler les crises du monde. Mais d'abord, Isabelle, dites-nous, qui sont ces nouveaux entrants?
Alors, ces nouveaux venus ne sont que des membres provisoires. Ils siégeront au Conseil de sécurité pendant 2 ans seulement aux côtés des membres permanents. Ils sont 5 à faire leur entrée aujourd'hui. Les 5 autres seront renouvelés l'an prochain. Les 2 sièges dévolus à l'Europe de l'Ouest reviennent à l'Allemagne et à la Belgique, qui n'ont pas tout à fait la même envergure sur la scène internationale, mais qui entendent chacune à leur manière défendre les valeurs du multilatéralisme. 2 grandes puissances régionales font également leur entrée, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Enfin, pour la République dominicaine qui représente l'Amérique latine, c'est une première. Contrairement aux autres, elle n'a jamais été membre du Conseil de sécurité.
Isabelle, est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent changer les choses?
Ils arrivent en tout cas avec un certain nombre de revendications et d'ambitions qui visent clairement à faire contrepoids aux grandes puissances du Conseil, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine. D'abord, ce n'est pas uniquement un détail, ils ne veulent pas être appelés membres non permanents, mais membres élus, pour dire qu'ils ont eux aussi une voix à faire entendre. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire du Conseil, ils se sont entendus pour se partager les présidences des différents comités. C'est un peu technique, mais jusqu'ici, la pratique consistait à batailler en coulisses de manière bilatérale avec les membres permanents du Conseil. Et puis, de manière plus spécifique, la Belgique et surtout l'Allemagne veulent travailler de façon très étroite avec la France pour à la fois montrer que l'Europe pèse toujours malgré le Brexit et le retrait du Royaume-Uni, mais aussi pour contrer le fonctionnement d'un Conseil à 2 vitesses. L'Allemagne, qui lorgne d'ailleurs sur un poste permanent, entend bien jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Angela Merkel l'a redit ce week-end. Et puis de son côté, parmi ses nouveaux venus, l'Indonésie pourrait, elle, chercher à gêner la Chine en organisant des débats, par exemple, sur la persécution des musulmans en Birmanie. Et c'est vrai que la voix des non-permanents porte de plus en plus. La Bolivie, qui vient justement de laisser son siège, a par exemple dénoncé de façon très virulente le fonctionnement de l'organisation, selon elle, prisonnière de lutte d'influence. C'était le 21 décembre, lors d'un vote sur le Yémen. Les discussions ont manqué de transparence et de respect, a dit la représentante bolivienne. Nous exigeons d'être pris en considération.
Alors Isabelle, ces petits pays essaient d'être le grain de sable, on le voit bien, mais on est loin d'un changement en profondeur de l'institution.
Effectivement, ce n'est pas eux qui vont donner un vrai coup de pied dans la fourmilière. Ça fait 25 ans que l'on tente sans succès de moderniser les Nations Unies, organisation née de la guerre froide, qui n'est absolument plus représentative des équilibres mondiaux. Aucun pays africain, par exemple, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, malgré leur lobbying, ça ne change pas. Cette organisation des Nations Unies, qui reste toujours, on le sait, paralysée par le droit de veto de ses 5 membres permanents, qui peuvent bloquer n'importe quelle décision, trop souvent, hélas, pour protéger des gouvernements amis ou servir des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la communauté internationale. Or, les membres permanents et non permanents, surtout, ne disposent pas de ce levier essentiel. Le Conseil est aujourd'hui extrêmement divisé, polarisé. Les diplomates eux-mêmes le reconnaissent. Les ambassadeurs campent sur leur position, ne cherchent même plus le compromis. Les échanges sont parfois brutaux. Plus personne ne s'écoute. Des alliances historiques même se fragilisent.
Isabelle Labéry, Le Monde à l'envers. Merci.